Faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfin, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Pratico-pratique. C'est une des parties les plus pratiques de l'Épître aux Colossiens. Ça nous parle des relations interpersonnelles. Juste avant de rentrer dans mon message, on a lancé un défi la semaine passée de que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Est-ce que vous vous rappelez de ce défi qu'on avait donné? Quelqu'un pourrait me mentionner le défi qu'on s'était donné ensemble? Rappelez-vous de ce défi-là? Parler du Seigneur à quelqu'un, tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait entreprendre? De mettre Jésus un petit peu plus dans nos conversations. On s'est dit qu'on le ferait au moins deux fois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait comme phrase clé qu'on pourrait dire, par exemple, à l'autre personne? Oui? Oui, donc de lui parler de ce que tu as lu et de ce que tu as retenu. Donc, ça exciterait l'autre à la lecture, à mettre la parole dans sa vie aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on poserait aussi comme question? Oui, qu'est-ce que je peux te partager? On prendrait le risque de lui demander, toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement béni dernièrement? On a dit qu'on ferait ça avec un croyant, principalement, parce que tu ne veux pas, tu sais, quelqu'un qui ne lit pas sa Bible et qui n'est pas croyant, tu dis, tu ne veux pas. Mais tu peux certainement demander à un croyant, un mari, un ami, tout ça, qu'est-ce que tu as lu dernièrement puis que ça t'est venu te toucher ou que tu as entendu à propos du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on doit grandir dans la vérité. Puis on s'est dit qu'on prendrait le risque de le faire parce que ça se pourrait que l'autre n'ait pas lu sa Bible depuis qu'il est venu à l'église la semaine passée, puis que ça ferait un challenge. Puis là, on dirait, je me prends des pourvus un petit peu, là, mais qu'on ne mettrait pas de tension, mais qu'on voulait mettre la parole de plus en plus au milieu des relations entre amis, entre chums blondes, entre père et fils et mère-fille, etc. On s'est dit aussi qu'on pourrait parler à un non-croyant qui nous fait confiance puis qu'on sait qu'ils sont ouverts, à leur dire qu'est-ce que nous, on a découvert dernièrement du Seigneur puis laisser la parole de Dieu germer dans leur cœur. Donc, le message la semaine passée, c'était que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Puis, c'était comme si on recevrait une personne à dîner puis on y offrait un couvert de plus à la table. On laisserait parler. On laisserait la parole circuler entre nous. Puis une bonne manière de faire, c'est, je vais lire, il faut que je découvre quelque chose parce que je veux amener ça au milieu de nous. Tu sais, aujourd'hui, j'ai prié puis j'ai étudié depuis hier, depuis une partie de la semaine, pour amener quelque chose à vous. Et vous qui faites les repas à la maison, vous le faites souvent pour l'autre, puis vous dites, ah, si je serais tout seul, peut-être je ne cuisinerais pas, mais vu que j'ai quelqu'un d'autre pour qui je fais à manger, bien, ça me motive un peu plus. Bien, la parole, c'est la même affaire. Si on veut qu'elle soit abondamment parmi nous, il faut commencer à la lire pour nous, oui, mais en pensant qu'on pourrait peut-être faire profiter à quelqu'un d'autre de ce qu'on a été béni. Ça, c'était notre message la semaine passée, que la parole de Dieu habite au milieu de vous. Pourquoi on avait dit de le faire deux fois? C'est que la première fois, l'autre, tu le prends au dépourvu. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à manger? Mais la deuxième fois, il va avoir pris ça, puis il va avoir pris ça comme un défi de mettre la parole entre vous deux. Fait qu'il va commencer à les lire, parce que lui aussi aimerait pouvoir apporter à la relation de la parole au milieu d'eux. Et donc, c'est une bonne... au moins deux fois, puis dites-moi qu'est-ce qui arrive. N'as-tu qu'ils l'ont fait, qui ont été bénis par cet exercice-là? Vous n'êtes pas gêné, on est en famille. On l'a fait à Saint-Michel. Amen. C'est vrai. On l'a fait dans l'auto pas mal. C'était béni. OK. OK, le verset aujourd'hui commence avec, donc, reprenez ce défi-là, gardez-le entre vous, que la parole de Dieu habite abondamment parmi nous. Pourquoi? Parce que on est les mandataires de Jésus-Christ dans un monde perdu, dans un couple perdu, dans une église à la limite perdue. On est mandataire de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on représente les pensées et la personne de Jésus-Christ pour l'autre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il n'y a pas mieux que les relations interpersonnelles que sont mari et femme, parents et enfants, employé-employeur. Il n'y a pas mieux pour parler de ça que le premier verset dit « Quoi que vous fassiez, qu'est-ce que tu fais, ou maintenant tout ce que tu vas dire en parole ou en acte, fais tout au nom du Seigneur en exprimant ta reconnaissance au Père. Que tout ce que tu vas faire, que tout ce que tu vas dire soit la représentation de Christ, que ça soit fait au nom de Christ. Donc, c'est comme si tu venais en son nom pour l'autre. Et c'est toute une responsabilité qu'on a. Et à moins que la parole de Dieu fasse un travail en nous pour nous transformer un peu plus à l'image de Jésus, bien, c'est pas Christ qu'on va offrir à l'autre, c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est la personne qui est l'eau qui est rendue, mais ce n'est pas Christ en nous qu'on va offrir. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ dirait? Qu'est-ce que Jésus-Christ ferait? Eh bien, dans sa parole, si on apprend à penser comme lui, on va commencer à agir et dire comme lui. Donc, c'est très pratique aujourd'hui ce qu'on va parler. Alors que les versets d'avant parlaient de support mutuel, de bonté, comme ça parlait au général au corps de Christ, Paul l'amène à quelque chose de très terre-à-terre, ça se passe dans toutes les relations qui sont dans le monde. Et donc, on va commencer avec le verset 17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » En toutes circonstances, de toute manière, peu importe ce qui est en train d'arriver, la volonté de Dieu pour ma vie, c'est de rendre grâce à Dieu. Je veux te rendre grâce pour mon épouse, je veux te rendre grâce que je suis célibataire, je veux te rendre grâce que j'ai une perte d'emploi, je veux te rendre grâce que je viens d'avoir un nouvel emploi, je veux te rendre grâce que que les gens m'aiment et me respectent, je te rends grâce, Seigneur, que je passe par un temps où, oh boy, je me sens plus méprisé puis abandonné. Rendre grâce au Seigneur en toutes choses, c'est la volonté de Dieu à votre égard, nous dit 1 Thessaloniciens 5, 18. Et il dit de donner, exprimer par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et donc, il y a quelque chose qui se passe dans le monde quand on arrête d'être reconnaissant pour le patron que Dieu m'a donné. Quand j'arrête d'être reconnaissant pour les enfants que Dieu m'a donné. Quand j'arrête d'être reconnaissant pour les parents et pour la famille que Dieu m'a donné. Il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'on arrête de traiter comme un cadeau les gens, comme s'il y avait du précieux en eux. Et là, la guerre commence. C'est là que la destruction arrive. Et donc, en étant reconnaissant, en traitant les autres comme précieux et comme ayant une valeur aux yeux de Dieu, eh bien, notre façon d'agir avec eux va rehausser les relations et on va être vraiment les fils de notre Père qui est dans le ciel, parce qu'on est reconnaissant pour eux. Donc, le contexte est très pratique. Comme je vous dis, on va commencer avec les femmes. Avant de dire « Femmes, soyez soumises à vos maris », je veux mettre un petit contexte ici. Les femmes, dans l'histoire de l'humanité, ils ont rarement été considérés égales aux hommes à cause de leur faiblesse physique ou plutôt leur infériorité musculaire, squelettique. OK? Excusez. Comment je pourrais faire pour ne pas me caler ici? Les hommes sont en moyenne plus forts que vous. Est-ce que c'est correct? Physiquement? Est-ce que les hommes, vous êtes d'accord? Je veux un amen d'homme. Est-ce que vous êtes d'accord que les femmes, des fois, sont plus fortes au niveau émotionnel? Dans la réflexion que nous, des fois. Est-ce que je peux avoir un amen pour les gars? OK. Donc, j'ai des amen ici. OK. Bon, je viens vraiment de me mettre le pied dans la bouche ici. Mesdames, vous n'êtes pas inférieures du tout à nous, squelettiquement parlant. C'est quoi, c'est l'infériorité squelettique? OK. Je sors de cette pièce d'où je n'aurais pas dû rentrer pour continuer tout simplement qu'au temps de Paul dans la société romaine. La femme était considérée comme la possession de l'homme. Elle était la possession d'abord de son papa, à l'âge mineur, jusqu'au temps où elle était mariée. Et le plus haut rang familial dans la société romaine, c'était la patria potesta. Et qu'est-ce que ça voulait dire? C'était la puissance paternelle. C'était le plus haut rang d'autorité dans la famille. Et le père avait sur ses enfants et sur sa femme le droit de vie, le droit de mort. Il pouvait mettre à mort sa femme, par exemple. dans certaines circonstances, s'il la trouvait en adultère. Il pouvait, lorsque sa femme accouchait, mettre le bébé par terre et le laisser dans la place publique pour que quelqu'un d'autre le prenne ou qu'on l'envoie dans la fosse des enfants, si on ne voulait pas de cet enfant-là. Donc, le père avait un pouvoir de vie et de mort, tout dépendant des circonstances, à Rome. Hey boy! Il pouvait être censuré par Rome pour avoir abusé de son pouvoir de vie et de mort sur sa famille, parfois trop tard, mais il pouvait vendre ses enfants comme esclaves, marier ses enfants à un inconnu que les enfants n'ont aucun choix à choisir, et la femme, lorsqu'elle était mariée, devenait la propriété de son nouveau mari. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'avant que le Christ vienne, ces choses-là se faisaient. Depuis que Christ est venu, on a commencé à voir que la femme, elle avait égale valeur à l'homme, et la Bible est venue restaurer la valeur de la femme égale à celle de l'homme, la valeur de l'enfant à celle de l'homme aussi. Donc, la Bible vient restaurer les inégalités, et c'est pourquoi, depuis que l'Église est là, la valeur de la femme a été rehaussée à cause des paroles du Seigneur puis des enseignements qu'on voit comme aujourd'hui. Fait qu'avant de parler de femmes, soyez soumises à votre mari, il faut comprendre comme il faut ici qu'est-ce qu'on essaie de où ce qu'on était dans cette société-là. Galates 3, 26 dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Pour la parole de Dieu, la Bible, l'homme puis la femme, il n'y a plus de distinction. Ça ne veut pas dire qu'on fait des toilettes unisexes là, puis que là, on change des transgenres. Là, okay? D'ailleurs, l'homme, ne connaissant pas la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'enlever les différences en créant des genres de nouvelles catégories, comme transgenres. Depuis les années 66, les révolutions tranquilles, les années 60, la femme, elle a réagi au fait qu'elle était pas payer la même affaire, qu'elle n'avait pas le droit au même privilège que l'homme sur le marché du travail et tout ça. Et là, il y a une révolution tranquille qui est venue. Et la réponse à ça, ça a été c'est une révolte. C'était pas nécessairement ce que le Seigneur avait prévu. Ou ce qu'on essaie d'enlever toutes les distinctions, il n'y a plus d'hommes, puis il n'y a plus de femmes. C'est pas ça que la Bible a dit. Ce qu'elle dit, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, c'est qu'on ne devrait pas être discriminatoire plus pour un homme que pour une femme, mais la femme va toujours rester une femme, puis l'homme aussi. Et donc, il devenait facile, imagine, là, toi, tu étais considéré comme du bétail, tu étais considéré comme la chèvre ou le mouton dans la cour arrière, tu es la possession de ton mari, puis là, tu viens de trouver la bonne nouvelle que Christ est mort pour toi, que tu as une âme, que tu es aussi précieux que ton mari, puis que tu peux faire partie de l'Église en tant que membre à part entière sans être sous l'égide d'un autre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de mère. Eh bien, c'était facile pour la femme de commencer à regarder son mari avec dédain et agir comme en disant « Non, je suis égale valeur à toi », puis de sortir de du dessein que Dieu avait préparé pour le mariage. Mais si elle a réagi comme ça, elle aurait créé plus de mal que de bien. Et le but de Jésus, quand il est venu restaurer la valeur de la femme, n'était pas de renverser la famille. Puisque la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, bien, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais ce n'était certainement pas ce que les Romains avaient fait de la femme. Okay? Et donc, quand que Jésus vient restaurer la valeur de la femme, il ne vient pas renverser la famille, il vient restaurer la famille. Et on voit dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Donc ici, la femme découvrait qu'elle avait la même valeur que son mari, qu'elle avait le droit à la vie éternelle comme son mari, qu'il n'y avait pas de favoritisme d'homme-femme. Elle devait continuer à être soumise. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que veut dire ce verset-là ici. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » La soumission, c'est se placer sous. C'est de reconnaître une autorité qui était donnée par le Seigneur au chef du foyer, le père des enfants et le mari de l'épouse. Donc, c'est se placer ou reconnaître son autorité et se placer sous. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Prendre mon rôle avec reconnaissance ». Donc, se placer sous, ça veut juste dire de reconnaître qu'il y a un ordre dans la famille, le papa est le chef du foyer, il est le chef de l'épouse, puis il est le chef des enfants. Et qu'elle partage son autorité sur la vie des enfants aussi. Donc, Jésus lui-même était le fils du Père. Il disait qu'il faisait tout ce qu'il voyait faire du Père. Il était soumis à son Père, mais il n'était pas... Il était d'égale valeur, d'égale puissance, puis d'égale dignité. Okay? Et pourtant, Jésus-Christ était soumis à son Père. Pourquoi ça nous fait réagir quand on dit « Femme, soyez soumise à vos maris » puis on ne réagit pas quand on dit que Christ est soumis à son Père? Pourquoi? Parce qu'on est en réaction à l'abus d'autorité, à ceux qui, à cause de leur force physique ou à cause de leur domination, ils ont soumis les gens par force. Mais ici, ce n'est pas ça que la Bible a dit. On est en réaction aussi à comment on peut avoir dans l'Église, dans les siècles passés, utiliser ces versets-là pour enlever des droits à la femme en la soumettant. Mais ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qui t'est donné. La soumission, c'est quelque chose que tu fais de bon cœur. C'est quelque chose que tu choisis de faire. Et c'est là qu'elle a de la valeur. Puis il dit, la femme, elle doit reconnaître le rôle du père dans le foyer et le chef qui est chef de la femme. Et elle partage son autorité sur la vie des enfants. Donc, c'est ça que le texte aujourd'hui nous enseigne. Le fils lui-même, il est soumis au père. Donc, il dit, femme, on pourrait le dire comme ça, reconnaissez l'autorité du père ou du mari. Et donc, placez-vous sous cette autorité-là, okay? Comme il convient dans le Seigneur, même s'il n'y a pas d'enfant, donc le mari, en tant qu'époux. Comme il convient dans le Seigneur. Comme il convient dans le Seigneur, c'est comme il appartient dans le Seigneur. Donc, à tous ceux qui sont dans le Seigneur, c'est comme une obligation morale. Pourquoi? Parce qu'il y a le chef, puis il y a les autorités déléguées. Donc, il y a le chef, il y a un seul maître, c'est Christ, hein? Et puis, mais au-dessus de ce maître-là, il y a des autorités. Et puisque quand je suis venu au Seigneur, j'ai incliné les genoux devant le Seigneur, j'ai reconnu qu'il était maître et Seigneur de ma vie, j'accepte aussi sa manière de dealer avec moi quand, que, par exemple, je suis sur la route et que j'ai un ticket par une police ou que je dois passer devant le juge. Chacun d'entre nous, on a des autorités auxquelles on doit faire face. Et la manière que j'ai agi avec Christ en courbant les genoux, de la même manière, je vais incliner la tête aussi devant les autorités qui le représentent. OK? Pourquoi c'est convenable? Pourquoi? Parce qu'il est le maître de tout et tout le monde, on doit rendre des comptes à ce maître, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc, c'est convenable dans le Seigneur, c'est une obligation morale que si je suis soumis au maître des maîtres, bien, je vais me soumettre aussi aux autorités qui ont été placées dans le monde qui le représentent. Donc, c'est juste convenable dans le Seigneur que ce soit comme ça. Il convient dans le Seigneur que si on est soumis à Christ, on sera aussi soumis à lui, à tous ceux qui lui doivent des comptes. C'est à l'imparfait, hein, il en a été convenu dans le Seigneur. C'est comme si quand tu as accepté le Seigneur, c'est comme devenu normal que les autorités qui sont placées sur ta vie, que ce soit dans la famille, que ce soit à ton travail, que ce soit dans le gouvernement, dans l'Église, c'est convenable. C'est devenu convenable au jour où tu as accepté Christ, que si tu acceptais le Seigneur qui dirige ta vie, tu acceptais aussi que les autorités te conduisent dans la vie et que tu devrais rendre des comptes à ces autorités-là aussi. Donc, quand est-ce que ce n'est plus convenable de se soumettre? Quand est-ce qu'une femme ne devrait pas se soumettre ou une personne ne devrait pas se soumettre à une autorité? C'est si l'autorité nous demanderait de pécher. Par exemple, dans Actes 5, verset 29, Pierre et les apôtres se font fouetter. Ils se font battre, puis ils se font dire de ne plus parler du beau nom de Jésus. Puis la réponse qu'ils vont faire, c'est « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » D'accord, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que là, il leur a demandé de transgresser quelque chose ou de ne pas faire quelque chose que Dieu demandait de faire. Dans Daniel 3, 18 aussi, on voit trois gars, Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a une statue qui a été élevée là, au centre, et puis on demande à tout le monde de se courber quand ils vont entendre la flûte. Puis les gars, ben, tu sais, ils pourraient faire assemblant d'attacher leur lacet en même temps que tout le monde se penche. Maintenant, ils restent trois bien droits comme une colonne, puis ils refusent de se courber devant une idole. Et parce que ça serait de faire quelque chose qui allait à l'encontre de leur Seigneur. Et ils ont dit, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Et pourtant, ils l'ont dit avec respect. Savez-vous aussi pourquoi on répond avec rébellion envers les autorités? C'est parce qu'on pense qu'ils n'ont pas le droit d'être répondus avec respect, puisqu'ils nous ont manqué de respect. Mais la réalité, en fait, c'est que chacun d'entre nous, un jour, on va faire face au maître des maîtres, au seigneur des seigneurs, et on va en répondre chacun de notre position. En tant que personne sous une autorité, et en tant qu'une personne comme ayant eu l'autorité, par exemple, lorsqu'on était un papa ou une maman. Et donc, la réalité, ce n'est pas que je dois être respectueux si l'autre est respectueux. Non. Je dois, par motif de conscience, puis pour honorer le roi des rois, faire tout comme pour le Seigneur, même si l'autre ne l'a pas fait de cette manière-là. Moi, un jour, j'aurai des comptes à rendre pour ma personne. Donc, une femme a la responsabilité de marcher avec Dieu quand bien même son époux quitterait les voies du Seigneur. Elle a cette responsabilité-là. Et sa soumission, elle a des limites aussi à ça. Le mari. Parlons maintenant des hommes. Les femmes, est-ce que vous êtes contents qu'on parle un peu des hommes? OK. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ça, ici, le mot, ce n'est pas le mot « philéo » qui est écrit. Le mot « philéo », ça serait un amour réciproque. C'était l'amour qu'on avait au début quand on a commencé à sortir ensemble. C'est un amour qu'on a manifesté quand on est tombé en amour. Donc, il y a une femme, un jour, qui dit à son mari, ils étaient rendus vieux, et sa femme dit, « Chérie, c'est plus comme avant. Au commencement, quand on se couchait, tu me donnais la main, puis on s'endormait comme ça. » Le mari, ben, il finit par lui donner la main, puis là, ben, il part pour s'endormir. « Ah, chérie, mais au commencement, tu me donnais un baiser. » Fait que là, il se tourne de bord, il donnait un bec. Fait que là, il commence à se rendormir, puis quand il tombe dans les bras de Morphée, « Chérie, tu me mordais aussi l'oreille? » Alors, il lâche la main, il sort du lit, il met ses gogos, ses pantoufles, puis il s'en va. La femme est toute surprise. Elle se dit, « Ben là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? » Elle dit, « Il faut que j'aille chercher mes dents. » Les choses changent. L'amour filéo change aussi. L'amour réciproque, l'amour qu'on avait, qu'on faisait des choses l'un pour l'autre, change aussi. Puis elle s'en va. Parfois, ce n'est plus réciproque. On tourne chacun de notre bord, tu sais. Avant, tu sais, on dormait presque pas de vêtements. À cette heure, on a des pantoufles qui se mettent sur la tête, là, tu sais. Je veux dire, on tourne tout chacun de notre bord, puis on se mord plus l'oreille. Comment est-ce qu'on sait que l'amour a diminué? Si vous avez un accident, mesdames, puis que votre voiture se retrouve sous l'eau, hein, et que votre mari est plus concerné par son sac de golf que par vous. Si votre mari va chercher son sac de golf avant vous, dans la voiture, là, vous savez que ça a diminué. Le texte nous dit, « Marie, aimez vos femmes comme... et ne vous aigrissez pas contre elles. » Le mot, c'est « agapeo », et le mot veut dire un amour qui aime en fonction d'une valeur, qui aime en fonction de la valeur de l'autre. C'est un amour de sacrifice, c'est un amour qui a été montré à la croix, et c'est un amour qui est produit par le croyant, qui est rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, qui aime l'autre parce que l'amour de Dieu est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit qui lui a été donné. On voit ça dans Romains 5, verset 5. Le Saint-Esprit donne un amour particulier pour l'autre. Et c'est un amour qui est prêt à sacrifier son plaisir momentané pour que l'autre puisse avoir plus de plaisir. C'est quelqu'un qui est capable de se faire passer en deuxième. En fait, ce n'est pas de s'effacer puis de ne plus avoir de droit, c'est de se passer en deuxième. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme Madame veut. Puis les autres sont là, puis ils sont toujours en train d'absorber, puis ils ne font jamais comme qu'ils voudraient. C'est pas ça l'idée, c'est de faire passer l'autre en premier, puis ensuite penser à soi, OK, dans cette relation-là. Donc, c'est un amour qui est prêt à se sacrifier ses désirs ou son bien-être pour sa femme. Ça, c'est l'amour que Dieu veut que l'homme ait pour sa femme. Ne les aigrissez pas, ça veut dire exaspérer, rendre amer, les irriter. Ensuite, on parle aux enfants. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Agréable dans le Seigneur, ça implique que c'est jugé par les chrétiens diraient, ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'un enfant devrait se comporter avec un parent. Dans le Seigneur, dans le fait qu'on a accepté le Seigneur, c'est comme ça que ça devrait être fait. Une mère, par exemple, trouverait agréable que l'enfant prenne son rôle dans la famille, respecte le père, puis respecte aussi son autorité parentale. Donc, la femme, elle veut bien que les enfants lui soient soumises, mais quand il dit, femme, soyez soumise à votre mari, là, ça... Ça brinque un petit peu. Comme je disais tantôt, on est en réaction aux abus de pouvoir. Mais quand on regarde nos enfants qui parlent avec respect au papa, puis qui nous parlent, admettons, vous êtes une femme, là, je ne suis pas une femme, donc vous trouvez que votre enfant parle bien à leur père, puis il vous parle bien, puis il vous respecte, vous trouvez que c'est convenable. Vous trouvez que c'est parce que c'est beau dans le Seigneur. Et donc, c'est ce qui est à faire. Il y a plusieurs versets qui nous parlent, chers enfants, que la façon que vous parlez à vos parents, c'est comme si vous parliez au Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, c'est directement, c'est écrit comme pour le Seigneur. C'est le premier commandement dans l'Ancien Testament qui est accompagné d'une promesse. Donc, si quelqu'un veut vivre vieux, respecte tes parents. Ça, c'était dans l'Ancien Testament parce que la promesse pour quelqu'un dans l'Ancien Testament d'être béni, là, c'était d'avoir respecté ses parents, d'avoir obéi à ses parents. Elle vivait vieux sur la terre. Maintenant, la bénédiction, c'est le tribunal de Christ. On va avoir des récompenses plus grandes, enfin, si on a honoré nos parents, on leur a parlé avec respect. Si vous avez 60 ans, puis votre père en a 90, la façon que vous les traitez avec une valeur. Le mot pour honorer, c'est timer, et ça veut dire placer une valeur dessus. Donc, traiter avec une grande valeur les gens. Le Seigneur va nous récompenser pour ça. C'est agréable dans le Seigneur. Ensuite, les pères. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. L'irritation est un symptôme que les critères sont parfois trop exigeants. L'irritation va mener au découragement. Le mot pour découragement, c'est perdre le cœur, être démoralisé, brisé dans l'esprit. Donc, à cause qu'on ait autorité sur leur vie, nos mots peuvent faire, ils peuvent briser. Je pense que c'est Ben Johnson qui a dit, tous les enfants ont besoin d'un peu d'aide, d'un peu d'espoir et de quelqu'un qui croit en eux. Notre autorité peut être utilisée pour détruire la personnalité de la petite personne en le critiquant, en toujours sortant qu'est-ce qu'il fait de pas bien. Et là, on finit par l'hériter. Il pense qu'il n'arrivera jamais à nous plaire. Parfois, on a des attentes exigeantes envers eux autres. Puis, étant donné qu'on a toujours des attentes exigeantes, ils sont toujours à 7 sur 10. Jamais on fait bravo. Pourquoi tu as y est où le 3 qui manque? Puis, à un moment donné, le jeune perd courage. Puis, à un moment donné, ça fait des gens poqués, ça. Ça fait des gens dans la vie qui savent qu'ils ont besoin toujours d'une petite poussée là, pour continuer. Là. Ils veulent abandonner rapidement. On est adulte, là, puis on est poqués. Puis, on a besoin que quelqu'un dans le corps de Christ vienne et nous dise: hey, c'est-tu quoi? Tu es capable, continue. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir quand on était jeune. On ne l'a pas nécessairement eu. Et si nous ne l'avons pas eu, Dieu va nous le donner au travers les gens du corps de Christ, au travers une épouse merveilleuse. Il va nous aider dans ça. Mais papa, maman, vous êtes importants pour faire croire aux jeunes l'espoir, qu'ils sont capables et qui ont besoin d'un peu d'aide. Et les papas sont beaucoup, ici c'est écrit au père, hein? Ils ont un pouvoir d'affirmation que même les femmes reconnaissent. Donc, briser dans l'esprit. L'autorité est donnée pour édifier l'autre et non pas pour le détruire. Un jour, papa, on va avoir un rendre compte de comment on va avoir traité nos enfants pour les faire entrer dans le but de leur vie. Et donc, ce sont des sujets très importants aujourd'hui parce que c'est nos enfants, c'est leur futur. Ensuite, il parle des serviteurs. Hein? Dans la Louis II, c'est vraiment le mot « esclave » qui est utilisé. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Serviteur, c'est le mot doulos et ça parle vraiment du dernier rang des esclaves. Hein. Ça parle de la position de ne pas avoir beaucoup de droits. Ils appartiennent, littéralement, ils appartiennent à un autre. C'est la majorité des esclaves, quand c'est écrit, c'était des Juifs qui étaient au service des non-Juifs. Contrairement à l'Ancien Testament qui disait que tu pouvais te vendre esclave pendant 7 ans parce que tu avais trop de dettes, puis repartir au bout de 7 ans, puis à te refaire, les Romains, c'est pas comme ça que ça marchait. Tu pouvais être dans un contrat pas mal plus longtemps que ça. Et un peu aujourd'hui, d'ailleurs, les faillites sont basées sur toujours ce 7 ans-là. Présentement, tu fais une faillite, puis après ça, tu refais ton nom hein, au bout de 7 ans. C'est basé sur les lois qui protégeaient les individus dans le judaïsme. Dans le Nouveau Testament, une des relations qui est le plus traitée, c'est les relations entre maître et esclave. C'est drôle, hein? C'est même pas mari et femme, parents, enfants. C'est les esclaves et les maîtres qui ressortent toujours. Pourquoi? Parce que la majorité de la population, écoutez, une personne sur deux ou plus était esclave. Tu t'imagines? 50% de la population était esclave d'un autre. C'est quelque chose. Donc, Paul avait aussi une relation en prison avec un gars qui s'appelait Onésime, qui l'a conduit au Seigneur, puis l'a renvoyé à son maître, qui était Philémon. Donc, Paul était proche de cette situation-là. C'était un sujet qui lui touchait beaucoup à cœur. Et on se dit, crime, comment se fait que Dieu n'est pas venu venir abolir l'esclavage si c'est pas bon comme ça, ou c'était pas bon de cette façon-là? Bien, Jésus, ni l'Église, ni Jésus sont venus pour renverser l'ordre établi par la rébellion. Même si le système n'est pas bon, Dieu ne cautionnera pas la rébellion. Et Christ a été accusé de vouloir soulever Rome. D'ailleurs, c'est le motif de sa crucifixion, le roi des Juifs. Et on l'accusait de se soulever contre César, contre Rome. Mais Jésus n'a jamais fait de soulèvement. Hein? Et le passage est clair. Paul veut montrer que les esclaves qui étaient devenus chrétiens devaient avoir un témoignage qui démontre que le christianisme est loin d'une organisation qui vient saper les fondations d'une société. On n'est pas des révolutionnaires qui veulent détruire une société ou une organisation parce que ce n'est pas sain. La victoire de Jésus-Christ et la victoire de l'Église, c'est de changer les personnes, une personne à la fois. C'est comme ça que Jésus-Christ va s'y prendre, c'est de changer les cœurs, le cœur du maître, le cœur de l'esclave. Éventuellement, ce système malsain-là va s'effondrer. Et d'ailleurs, lorsque tu regardes dans l'histoire, ce sont encore une fois les chrétiens, à cause de la parole de Dieu qui donnait le droit à l'esclave d'être un homme libre, qu'éventuellement est arrivé que l'esclavage a été aboli en Angleterre et aboli aux États-Unis. Alors, il y a des distinctions qui ont disparu. Dans le verset 11 qui précédait, on avait vu qu'il n'y a plus ni esclave ni libre. Encore une fois, c'était pour abolir les discriminations dans la société. Ce n'est pas parce que tu appartenais à un autre, puis tu t'étais vendu parce que tu n'étais pas capable de payer tes biens, puis l'autre qui avait beaucoup d'argent, qu'il y en a un qui était comme ça aux yeux de Dieu, puis l'autre était comme ça. Aux yeux de Dieu, celui, le frère qui a accepté le Seigneur, qui est un esclave, puis son maître qui le possède, les deux aux yeux de Dieu sont possédés par un seul maître, puis les deux sont, il n'y a plus ni esclave ni libre dans la famille du Seigneur. Donc, après avoir accepté le Seigneur dans l'Église, vous imaginez le maître et son esclave qui sont tous les deux dans l'Église, et l'esclave qui regarde son maître puis qui se dit dans son cœur, « On est frères maintenant, mais je suis encore ton esclave. Tu as encore des droits sur moi. » Parce qu'il y avait une entente qui était prise, etc. Donc, 1 Corinthiens 7, 20 dit que chacun reste dans la condition qui était la sienne quand il a été appelé. « Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas. » Si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Si ton maître accepte le Seigneur, puis lui voit qu'il peut te relâcher de cette entente-là, bien, fais-le. Mais sinon, reste dans cette position-là. C'est spécial. On aurait tendance à penser, c'est pas bon que ça. Hein? Mais encore une fois, Jésus, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient changer le cœur. Fait que là, le maître, admettons qu'il accepte le Seigneur, ou admettons l'esclave accepte le Seigneur, puis il commence à agir, il ne quitte plus là, quand il fait les affaires. Il est fait comme s'il faisait pour le Seigneur. Le gars, il revient de l'Église, puis il commence à nettoyer les écuries, puis tout, puis l'attitude a changé complètement, puis le maître dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Avant, c'était, j'essayais de te faire un petit peu plus d'ouvrage, puis oublie ça, tu répondais, puis tout ça, puis là, c'est rendu que tu en fais plus. C'est quoi? C'est... Ah ben, j'ai accepté le Seigneur, et moi, je travaille pour le Seigneur. Et comme le Seigneur, c'est ton Seigneur, ben moi, je vais avoir des comptes de comment j'ai répondu. Toi, tu vas avoir des comptes de comment tu vas arrêter mon maître. Là, le maître, il commence à réfléchir, puis il dit, « Je peux-tu aller à ton église, moi aussi? » Fait qu'il va à l'église. Le maître, ils sont assis là, les deux dans la même église, et le maître traite maintenant son esclave comme son frère. Là, il y a quelque chose qui commence à se passer. Un peu comme l'épouse qui agit avec douceur avec son mari. Et donc, ça va conduire éventuellement l'amitié, l'amour entre les frères et les sœurs dans le Seigneur, puis le fait qu'il n'y a plus de distinction de catégorie va faire éventuellement que le joug de l'esclavage va être brisé et ça va amener à l'abolition de l'esclavage. Il y a ici un principe qui est intéressant. Il dit, ce n'est pas seulement sous leurs yeux. Vous savez, quand on fait les choses, maintenant je vais parler de nos employeurs, okay? Parce que là, nous, on n'est pas des esclaves, mais on pourrait dire qu'au prix qu'on paye de l'impôt, on l'est aussi. Quand on sert les gens qui nous embauchent, puis quand ils sont là, hey, on fait encore mieux. On est des hypocrites. On n'est pas des gens simples. Ici, le mot simple, ça veut dire le contraire de double. Une personne au cœur double, c'est une personne que, quand tu es là, elle fait mieux. Quand tu n'es pas là, elle ne fait pas mieux. Les chrétiens devraient être les gens qui adorent le Seigneur dans leur travail, puis ils devraient faire tout comme pour le Seigneur, sous les yeux du Seigneur. Ici, il dit, ne le faites pas sous leurs yeux comme pour leur plaire, mais comme pour plaire à des hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Le travail, c'est un acte d'adoration. Je ne sais pas vous, quand vous rentrez au travail, si vous ressemblez à ça. Quelqu'un a dit, une cigarette raccourcit la vie de 2 minutes, l'alcool raccourcit la vie de 4 minutes. Le travail raccourcit la vie de 8 heures. Si vous voyez votre travail comme ça, vous avez besoin d'un ajustement parce que le travail est un acte d'adoration, car tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour des hommes. Ah, tu es en train de me dire que si je suis une femme et qu'il faut que je me place sous l'autorité de mon mari, par respect, c'est que c'est pour le Seigneur qu'il faut que je le fasse. Oui. Ah, si je suis un époux, si je suis un mari, je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, tu es en train de me dire que c'est pour Christ que je le fais. Oui, tu le fais pour le Seigneur de ta femme. Ah, tu me dis que si je suis un enfant puis j'obéis à mon parent, c'est à toi que je le fais. Oui. À mon employeur, oui, mais il n'est pas sauvé. Mais c'est pas grave. Même s'il n'est pas sauvé, dans Romains 13, c'est écrit que toute autorité est instituée par Dieu et que si on résiste à l'autorité, on va recevoir les conséquences d'avoir résisté au Seigneur. Donc, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, donc regardez ici, faites-le pour le Seigneur parce que vous allez avoir un héritage. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra son injustice et il n'y a point d'exception de personne. Moi, j'ai appris cette leçon-là quand je faisais des displays chez Pharmaprix. Hein? Ah non, chez Jean Coutu, parce que c'est là que j'ai trouvé ma femme. Le slogan a changé. C'était plus « Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même un ami », c'est « Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même un mari ». Alors, ma femme, c'est là que je l'ai. C'est dans ce temps-là, je travaillais à la pharmacie, puis c'était plate, monter des displays. Puis là, tu passais l'exacto, puis tu coupais une bouteille, puis là, ça commençait à couler, puis là, c'était tout croche à faire. À un moment donné, je me suis dit, je vais le faire comme pour le Seigneur. J'avais lu le verset qui disait tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Fait que j'ai commencé, mon ami, à faire de l'artisanat avec mes displays. Puis j'ai commencé à dire, « Seigneur, je t'offre ce display-là pour toi. » On appelait ça un display. C'est le devoir du Seigneur de plaire au Seigneur, du chrétien de plaire au Seigneur dans le travail. Et l'idéal ne peut être accompli que si on réalise que le Seigneur nous regarde et que c'est devant son regard qu'on va être évalué un jour. Et donc, nos patrons, quand ils savent ça, là, même si eux autres ne sont pas chrétiens, ils sont bien contents que tu fasses ça parce qu'ils en ont un de moins à surveiller. Okay? Et ça, je te dis, à un moment donné, ils vont le savoir. Ils vont savoir que tu n'avais personne pour te voir et que tu as fait un excellent travail. Parce que tu n'as pas été un hypocrite, tu offres toujours la même qualité. Tu offres toujours quelque chose qui est excellent, même s'il ne l'a pas vu et il ne le saura jamais. Mais un jour, ils vont le savoir. Dieu va permettre qu'ils le sachent. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, voir des jours heureux, préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses, détourne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, on a vraiment ici un verset qui nous montre les yeux du Seigneur. Il faut que le chrétien soit un excellent travailleur, qui fasse tout comme pour le Seigneur. Puis si tu ne travailles pas, tu n'as pas de travail, c'est correct. Mais tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur, que tu vas rendre des comptes. Mon écran s'est fermé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit que mon message devrait terminer? Laisse-moi juste arriver ici, là. Je vais vous parler de vos patrons qui ne sont pas faciles à vivre. Je vais finir avec ça. Un autre verset, les croyants. Si les croyants savaient qu'un maître les regarde pour leur rendre selon toutes leurs œuvres, que ce soit en parole, que ce soit en action, faites tout au nom du Seigneur, rendant grâce à Dieu le Père, et faites tout comme pour le Seigneur. Si les chrétiens vivaient, imaginez si les chrétiens vivaient comme pour devoir en rendre compte sur la façon qu'ils ont parlé à leurs épouses, à leurs enfants, à leurs maris, à leurs employeurs, la façon qu'ils ont traité, la façon qu'ils ont agi, s'ils agissaient comme ça. Jérémie 32, verset 17. « Ah, Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et les patrons difficiles. Oh, les patrons difficiles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les patrons difficiles. Ah, dans 1 Pierre 2, lisez-le à la maison, on ne va pas le lire, mais ça parle vraiment que si vous souffrez parce que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Si vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez agi comme un chrétien devrait agir, c'est une grâce pour vous. Il y a une grâce particulière qui va venir sur vous pour être capable de passer au travers de ça. Lisez-le. Si vous avez, moi, en passant, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui m'ont parlé dernièrement qu'ils avaient des relations tendues au travail. Fait que si vous pensez que j'ai fait le message pour vous, ben oui, je l'ai fait pour vous. Mais je l'ai fait aussi parce que j'étais rendu là dans le texte. Fait que prenez-les pas personnel, vous êtes au moins 3 ou 4 à en avoir parlé. Fait que prenez-les pas personnel, OK? Prenez-le juste comme dire oui, je suis au courant, mais oui, ça peut aussi s'approprier à vous. Romains 13, tout le chapitre nous dit que les autorités viennent de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on devrait gérer ça, premièrement? mais s'ils sont incompétents ou s'ils ne parlent pas bien ou tout ça, l'honneur leur est dû quand même à cause du principe de délégation. Donc, la façon de les traiter avec honneur ne change pas. Un jour, chacun va rendre des comptes pour lui-même et ça demande une grâce spéciale que d'être sous une personne qu'on a de la difficulté. Hein? Ça demande une grâce spéciale et on ne le fait pas par sentiment. C'est ça l'affaire. On le fait par la foi puis on sait que c'est agréable au Seigneur, par respect pour le Seigneur, qu'on respecte les autorités qu'il a établies. La prière est la clé. La prière est la clé. Dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, ça dit « J'encourage donc avant de tout de faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Encore une fois, merci. Merci même pour mon patron. Okay? « Pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et tout respect, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Avant tout, quand tu pries, prie pour les autorités pour que tu aies une existence paisible. Pour que quand tu rentres, tu finisses par trouver goût à ton travail, hein, puis qu'il y en ait plusieurs qui soient sauvés. Parce que quand que ça ne va pas puis qu'il n'y a rien qui se résout, notre témoignage va. Pourquoi? On va répondre avec émotion, ça va être tendu et tout ça. OK? Donc, priez pour que Dieu donne de l'amour dans votre cœur pour le patron. Priez pour votre attitude, qu'elle reflète la personne de Jésus-Christ. Et priez que Dieu vous donne des bonnes paroles aussi qui servent à l'édification. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un fait de bien. La pire personne dans ce monde, là, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi une ou deux de ses qualités. Tu sais. Si tu avais une feuille à écrire et écrire tous ses défauts, tu n'arrêterais pas d'écrire ses défauts. Mais de dire, hey, c'est quoi ses qualités? Puis un jour, si j'ai l'opportunité, devant les employés, je vais lui dire, ah, mais arrête pas de me rabaisser devant les employés. Ce n'est pas un donnant-donnant. C'est qu'un jour, on va en rendre compte à Christ. C'est d'édifier, de servir de notre bouche pour édifier. L'approche doit être biblique pour éviter les pièges. Dans Proverbes 17, verset 9, « Celui qui couvre une offense cherche l'amour, mais celui qui rappelle dans ses discours divise les amis. » Un symptôme commun, si le patron est difficile, c'est que tous les employés ne sont pas capables. Fait que ça va être bien, bien facile de trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le boss parce que tous les employés ne sont pas capables. Ça va demander plus de courage de dire, regarde, je n'irai pas m'assire avec ceux qui parlent contre le boss pour qu'on s'entretienne de ça puis se justifier dans notre blessure. Là. Je ne vais pas faire ça parce que celui qui couvre une offense cherche l'amour, celui qui la rappelle divise les amis. OK, si l'autorité vous fait donner, arrêtez de trouver des appuis dans l'organisation pour essayer de vous encourager. Commencez à prier pour votre patron. Trouver conseil auprès de quelqu'un qui n'a pas de relation avec la compagnie, mais tu ne vas pas voir quelqu'un qui te veut dans sa compagnie. Parce que lui, c'est sûr qu'il va t'aider à sortir. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, mais qui connaît le Seigneur. Quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui pourrait vous aider. Ne participez pas à l'assassination du caractère d'une personne. Si vous voulez en lire plus là-dessus, Jérémie 18, 18. Assassiner le caractère du patron. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tellement... dit des choses en réaction à lui qu'il va prendre la porte parce qu'il n'y a plus personne qui est capable de le suivre. Okay? On ne veut pas assassiner ça. Quand est-ce qu'il faut confronter? J'arrive à la fin. Quand est-ce qu'il faut confronter? Il faut savoir quand et comment confronter. Dans le Proverbe 20, au verset 2, il y a un verset qui dit « La terreur qu'inspire le roi est pareille au rugissement d'un lion. L'irrité, c'est pécher contre soi-même. » Fait qu'il faut que tu saches comment confronter une autorité parce qu'elle a un pouvoir, elle peut te mettre dehors. Fait qu'il faut aussi que tu saches comment ne pas l'irriter. Okay? Parce que l'irriter, c'est tu pèches contre toi-même. Et donc, une attention devrait être portée pour discuter du problème et non pas du caractère à problème. Bien important, si même dans n'importe quelle de vos relations, si vous adressez la problématique qui est arrivée comme étant une chose qui est en dehors de son tempérament ou de caractère, si tu dis « Ah, moi, j'aime pas la façon que tu me parles, tu es un gars arrogant », là, tu parles de son caractère. Mais si tu dis « Il s'est passé quelque chose, on a discuté devant les gens et ça m'a blessé. Okay? » Là, tu es en train de parler de la problématique, tu laisses le caractère. Dis son caractère, c'est Dieu qui va le juger pour ça. Okay? Donc, de parler de la problématique plutôt que de parler de son caractère. Dans Romains 14, c'est écrit que Dieu va juger chacun. Donc, c'est lui qui juge les caractères. Okay? Une attention est portée à discuter du problème et de parler en « je ». « Je me suis senti okay? ». C'est moins agressant que « tu m'as », le « tu ». Encore une fois, c'est bon pour toutes les relations. Ah oui, un patron, ça l'aime quand l'idée vient de lui. OK, donc en prenant les idées, quand tu vas arriver voir ton patron, propose-lui des solutions puis laisser choisir, avoir l'impression que l'idée est venue de lui. OK, l'idée ici, c'est que s'il a l'impression qu'il peut faire partie de la solution, il va se sentir important. Dans Proverbe 16, au verset 21, l'homme au cœur sage est appelé intelligent, la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Dire des compliments sincères prépare le cœur. Même s'il est arrivé quelque chose de mal, peut-être que le boss l'a fait parce qu'il voulait faire quelque chose de bien. Si c'est ça, parlez-lui. Dites, je sais que tu as voulu le faire, puis je te remercie pour ça, mais ça l'a causé plutôt cela. Okay? Vous êtes en train de faire une confrontation sans confronter vraiment. Et c'est du gros travail ce que je vous dis là, mais les conséquences sont moins pénibles que de ne pas l'avoir fait, puis d'avoir laissé tout ça s'égrener ou se détruire. Donc, si vous êtes hostile ou toujours en colère contre l'autorité, est-ce que ces conséquences sont faciles? Non. C'est plus facile de faire ce que je viens de vous partager ici. Et on va juste terminer avec le verset ici. « Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Fait que le patron aussi, un jour, il va avoir à rendre compte. Le papa, la maman avec des enfants, les gens qui ont été en autorité, un jour, on va tous avoir à rendre des comptes au maître qui est dans le ciel. Et donc, Jacques, il dit, le frère du Seigneur, dans Jacques 5, il dit que les employeurs n'avaient pas donné suffisamment de salaire à leurs employés et que le salaire des ouvriers criait jusqu'à Dieu et Dieu l'a entendu. Et donc, les employeurs et ceux qui sont en position aussi de donner aux travailleurs ne vont pas passer sous silence. Donc, quand on réalise que tous, on est placés devant le Seigneur des Seigneurs, bien, je sais que quand que je penche la tête, par respect, je me soumets aux autorités, je sais que ça plaît au Seigneur et l'autre va avoir à rendre compte de la portion qui lui convient. Fait que Père, je veux te remercier pour ce temps. Merci pour la patience de mes auditeurs. Je te prie, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur. Je ne connais pas leur situation. On a commencé le message, Seigneur, avec cette idée qu'on devait te rendre grâce à Dieu pour toute chose, puis de considérer la valeur de chaque individu. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous n'êtes pas capable de remercier le Seigneur pour? Cette personne-là, bien, Dieu vous demande de remercier le Seigneur pour cette personne-là. Même si vous ne comprenez pas pourquoi, juste d'accepter qu'elle est là dans votre vie et remercier le Seigneur pour ça. Cette personne-là. Peut-être que vous avez une difficulté avec une autorité, avec quelqu'un qui est en autorité, soit au travail, soit votre conjoint. Peut-être que vous êtes un enfant avec un parent. Vous ne pouvez pas changer nécessairement l'autre, mais vous pouvez changer comment vous répondez à l'autre. Bien, j'aimerais ça qu'on se place devant le Seigneur puis qu'on puisse dire, hey, un jour, je vais en rendre compte pour le Seigneur. Comment je vais avoir agi dans ces situations-là. Alors, Seigneur, je te demande de bénir ces gens-là, puis de les conduire. Amen.